Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's see things on Kinderhaus.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes au Canada qui vote. Lundi prochain, qui est en pleine campagne, l'occasion de regarder le bilan de Justin Trudeau, dont on ne connaît, vu d'ici, au fond, pas grand-chose, à part les moments de com' et quelques prises de bec, peut-être, avec le voisin américain. On verra ça ensemble dans un instant. Le bruit du monde est en Israël, dans les villes arabes israéliennes qui se plaignent aux autorités car elles veulent plus de sécurité. Et Amélie Perrier nous emmène notamment aux Philippines qui commence une campagne de vaccination contre la polio, figurez-vous. 18h50, le cinéma en VO et Eva Béton qui va nous expliquer ce soir ce qu'est un film pré-code. Et vous verrez, c'est passionnant. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et la France qui bloque l'élargissement de l'Europe aux Balkans. Pourquoi donc ? Il vous dira, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christian Rioux.
Bonsoir.
Votre correspondant du Devoir à Paris, journal canadien. Donc les élections législatives au Canada, c'est ce lundi, le 21 octobre. Vous venez de passer trois débats. Un Canada où Justin Trudeau, Premier ministre, sortant, cherche à renouveler son mandat. Nous, on a en France une vision qui est sans doute très déformée du Canada, au fond. On a l'impression d'un pays à bas bruit, qui fait finalement assez peu parler de lui, et qui est une sorte de miroir inversé des États-Unis. Est-ce qu'on se trompe intégralement avec ce Canada ou pas ?
Pas tout à fait. Le Canada est un pays tranquille, on pourrait dire, un pays où la vie politique est rarement très animée, sauf quand le Québec a des velléités d'indépendance. Et là, tout le monde, les correspondants du monde entier arrivent chez nous, débarquent. La plupart des correspondants français ont découvert le Canada comme ça, d'ailleurs.
C'est vrai.
En venant chez nous pour ça. Je me souviens que Jean-Daniel racontait toujours que la première fois qu'il était venu au Québec, c'est à cause de ça.
Voilà.
Donc, oui, voilà. Mais c'est un pays quand même où se jouent des questions politiques importantes, c'est-à-dire aujourd'hui on parle de multiculturalisme en France, c'est nous qui avons inventé ça. Est-ce qu'il faut s'en vanter ou s'en désoler, ça c'est une autre question, mais c'est nous qui avons inventé ça. Donc il y a des questions politiques. Nous avons été parmi les premiers à faire le mariage homosexuel, par exemple. Donc le Canada est souvent, je dirais, à l'avant-garde dans un certain nombre de débats, même si les choix qu'il fait peuvent être critiqués.
Et alors je disais à bas bruit parce que finalement il n'y a pas beaucoup de choses qui sont venues de nous, qui sont venues à nous, à part ces excès, en fait, y compris des 4 ans de Justin Trudeau, dont on se rend compte qu'il tremble un peu sur ses bases, ce garçon,
en fait,
totalement au coude à coude avec le conservateur.
Oui, absolument. On est dans une situation où on est vraiment entré dans une zone où personne ne peut dire qu'il l'emportera. Andrew Scheer, qui dirige les conservateurs, et Justin Trudeau, qui dirige le Parti libéral, sont nez à nez, à cause principalement de la progression de deux autres partis. Mais vous avez raison de dire que Justin Trudeau n'a plus tout à fait la même image, vous savez, de belâtre qu'il avait en 2015. On ne le connaissait pas beaucoup à l'époque.
C'est
sa photo a vite fait oui, c'était le fils, l'héritier, évidemment. En général, il prêchait le bien. Il était toujours plutôt de ça. Aujourd'hui, malheureusement, il a un bilan, je dirais. Et ce bilan, finalement, est quand même assez mince. C'est-à-dire qu'on a rarement vu un bilan aussi mince, je dirais, après 4 ans au pouvoir.
Donc, qu'est-ce qui ternit l'image, en fait? C'est qu'effectivement, le bilan tient sur un ticket de métro?
La minceur du bilan. Vous savez que la grande réforme que Justin Trudeau a fait au Canada, c'est la légalisation de la marijuana. Les autres ont été faites à moitié ou reniées. Parfois, son engagement écologique est compensé par l'achat d'un pipeline, vous voyez, pour faire plaisir à l'Alberta. Donc, vous voyez que le bilan est plutôt mitigé. Mais je pense aussi que son image a beaucoup changé. C'est-à-dire que Justin Trudeau a peut-être pêché par là où il avait...
Par excès de communication, vous voulez dire,
oui, exactement.
Bien sûr, ouais.
C'est ça. Là, oui. Et donc, il se retrouve aujourd'hui, il a tellement joué de cette image d'homme parfait, de belâtre, qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez entendu parler, évidemment, des histoires de ces déguisements qui font rire la planète, aujourd'hui, mais aussi qui font rire les Canadiens. Mais des fois, quand on arrive 5 minutes après, on rit un peu moins.
Alors, les autres autour qu'on fasse un peu connaissance, France avec ce qui est un danger aujourd'hui pour Trudeau. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Jamet Singh. Il est néo-démocrate. Ça veut dire quoi, néo-démocrate? Est-ce que ça veut dire qu'on est à la gauche de Trudeau?
C'est le parti classique social-démocrate qui est issu des syndicats chez nous.
Est-ce que ça veut dire que c'est un allié au fond? Alors, bien qu'il s'en défende là, est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est un allié naturel de Justin Trudeau? S'il n'atteint pas une vraie majorité, est-ce que ça veut dire que c'est celui qui le maintiendra au pouvoir?
Justin Trudeau a pris le pouvoir en 2015 parce que le NPD a fait des erreurs magistrales dans sa campagne. Et normalement, le NPD aurait dû être au pouvoir.
Donc, ce qui n'est jamais arrivé.
C'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir. Oui, éventuellement, si Justin Trudeau se retrouve dans une situation de gouvernement minoritaire, ce qui est très possible, en tout cas avec les chiffres qu'on a en ce moment, le NPD pourrait être un allié. Est-ce que ça voudrait dire une coalition?
Ouais, c'est ça.
On n'aime pas les coalitions.
Est-ce que c'est contre-culture, la coalition?
C'est contre-culturel pour nous, oui. C'est pas dans la culture politique canadienne de faire des coalitions. C'est arrivé, mais c'est vraiment exceptionnel quand ça arrive. Par contre, on peut gouverner pendant un certain temps, pendant un an, deux ans, peut-être trois ans.
En étant minoritaire?
En étant minoritaire et en essayant de ménager la chèvre et le chou et d'aller chercher des voix là où on peut aller les chercher.
Ça veut dire que s'il perd en nombre de voix, il a le droit de s'accrocher au pouvoir, Justin Trudeau?
S'il arrive en tête, s'il a plus de députés que les conservateurs, c'est à lui qu'on va demander de former un gouvernement. Il va former un gouvernement et éventuellement, il peut gouverner minoritaire, mais évidemment, il devra passer des ententes avec les autres partis.
Alors, il y en a une autre qui m'intéresse qui s'appelle Elisabeth May. Le Parti vert, c'est quoi, j'allais dire, la couleur du Parti vert au Canada, chez vous?
Le Parti vert, c'est un parti assez récent qui a fait parler de lui essentiellement parce qu'il s'appelait le Parti vert. Il y a des analystes politiques qui disent chez nous que la grande force politique du Parti vert, c'est de s'appeler le Parti vert parce qu'il y a des gens qui votent pour tout simplement parce qu'ils s'appellent comme ça. Madame May a essayé quand même de faire un certain nombre de choses, de se démarquer, mais en fin de campagne, elle s'est à peu près effondrée. Elle n'a à peu près rien à proposer que les néo-démocrates ne proposent pas déjà, et donc elle n'est pas arrivée à se distinguer véritablement, ce qui fait qu'aujourd'hui on attend un score assez minable. Elle pourrait faire élire quelques députés ce qui serait déjà un progrès, faut dire.
Je vous pose la question, Christian Rioux, parce que on a bien vu comment Justin Trudeau, au moment des accords de Paris, se mettait en avant. On a vu aussi surtout comment il se mettait lorsque Trump, le grand voisin, en est parti. Mais le bilan écolo de Justin Trudeau, c'est quoi? Écoutez, à part ce pipeline qui veut effectivement faire...
Parlons du bilan écologique du Canada, déjà, qui est extrêmement mauvais, alors que la France arrive deuxième, je pense, dans les pays les moins émetteurs de CO2, le Canada est...
En même temps, on n'a pas rempli nos objectifs non plus.
Non, le Canada non plus, mais le Canada est très, 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 très loin aujourd'hui de rattraper la France à ce niveau-là. Le Canada est un pays producteur de pétrole, qui produit un pétrole qu'on peut appeler sale, qui est extrêmement polluant, qui est fait à partir des sables bitumineux de l'Alberta. Et le Canada ne peut pas se passer de ça dans sa croissance économique, dans son développement économique. Il exporte du pétrole et l'Alberta veut absolument construire des pipelines un peu partout dans le pays pour l'exporter aux États-Unis, pour l'exporter vers l'Europe, l'amener, avoir un débouché soit sur le Pacifique, soit sur l'Atlantique. Et ça, c'est le grand débat canadien. Et Justin Trudeau, là-dessus, a toujours ménagé la chèvre et le chou. Il dit on va compenser les émissions par des gestes positifs dans le domaine de l'environnement, mais il est allé jusqu'à acheter le pipeline parce que l'entreprise privée n'était pas capable de le faire, il y avait trop d'incertitudes économiques.
Si on regarde par rapport à votre voisin du dessous, mais pas seulement, et puis aussi nous en Europe, est-ce que vous avez le sentiment quand même de vivre dans un pays qui échappe à ce vers quoi nous allons tous plus ou moins, c'est-à-dire les grands mouvements populistes ou les choses de ce genre-là? Est-ce qu'on y échappe ou est-ce qu'un gars comme Maxime Bernier, par exemple, que je vois qui est lui plutôt à la droite de la droite, peut représenter vaguement cette tendance-là, même si en termes de voix, il n'est pas très loin? Ou est-ce que vous échappez à cette vague populiste, vous, les Canadiens?
Nous n'échappons pas à ces débats. Ouais. Mais je dirais que les choses se passent de manière plus pacifique chez nous en général. Nous sommes un peu, vous savez, quand on arrive au Canada, on a un peu l'impression d'avoir un petit décalage par rapport à ce qui se passe à Paris, à New York ou à Los Angeles ou même à Moscou. Et donc on sent que les Canadiens vivent les mêmes questions, les mêmes problèmes que le reste de la planète et les mêmes débats se déroulent chez nous. Certains ont tenté de traiter François Legault, le premier ministre québécois, de populisme. populisme. Mm-hmm. Mais bon, ça fait un peu sourire tout le monde. Ça serait un populiste tellement soft que finalement, ça ne serait plus vraiment un populiste.
Et alors, ce fameux bloc québécois, là, on a l'impression pour le coup qu'il a fait un bond dans les sondages. Ça dit quoi?
Écoutez, c'est
bond
très
dans
surprenant.
Les sondages.
Le bloc québécois était donné pour mort, mais quand je dis pour mort, mort, hein, ouais. vraiment mort. Il y a 4 ans à peine, il y a 3 ans à peine, et tout à coup, il y a une véritable remontée qui est liée à tout le débat qui s'est déroulé au Québec qui s'est déroulé au printemps, un débat sur la laïcité. C'est-à-dire le Québec est le seul endroit en Amérique, dans toute l'Amérique du Nord, où il y a une loi sur une chose qui s'appelle la laïcité, un mot absolument intraduisible en anglais qu'on s'est vertu à essayer d'expliquer à nos compatriotes.
Et qui dit des choses qui résonnent, qu'on peut comprendre, nous, les Français, par exemple.
Oui, absolument, parce que bon, c'est une loi qui, quand j'en parle à mes amis français, ils me disent, oh, bon, là, franchement, c'est une laïcité pas mal édulcorée. Oui, mais quand c'est la seule en Amérique du Nord, ça prend un autre relief. C'est-à-dire, c'est une loi qui, par exemple, va interdire le port de signes religieux aux enseignants, et à un certain nombre de fonctionnaires, les policiers, par exemple. Bon, les policiers, jamais en France, on imaginerait un policier portant un turban sikh ou un voile. On peut pas imaginer ça. Les enseignants non plus. Mais chez nous, ça fait une vraie révolution. Mmh. Et cette loi a été traitée de raciste. Elle a été traitée de tous les noms au Canada anglais. Même les journalistes de la CBC la traitent comme ça. Et ça, alors que c'est une loi qui est soutenue par 70% des Québécois, qui a été votée à la majorité du Parlement québécois. Et donc, c'est ce qui a, je dirais, fait renaître à peu près de ses cendres le Bloc québécois, qui est un parti indépendantiste, mais qui là se retrouve, dans le fond, à défendre une loi québécoise. Et le grand débat, ça a été, enfin, la question qu'on a posée pendant toute la campagne aux candidats, c'est allez-vous vous investir dans la contestation de la loi? Parce que la loi va se rendre en Cour suprême, c'est sûr. Et on est à peu près certain que Justin Trudeau, et c'est une des raisons pour laquelle il perd énormément de voix au Québec, va contester la loi, une loi qu'il trouve injuste, absolument abominable.
C'est la continuité de ce que vous appeliez les accommodements raisonnables.
C'est ça.
C'est la même chose, au fond, c'est une continuité, ou ça va plus loin que les accommodements raisonnables?
C'est la continuité, parce que l'idée de l'accommodement, vous savez, le Canada est fondé sur...
C'est le compromis.
Mais le Canada, c'est le royaume du multiculturalisme. On a inventé le mot. C'est le père de Justin Trudeau, d'ailleurs, qui a inventé le mot. C'est un pays qui se gère en négociant sans arrêt avec les communautés, comme l'Empire auparavant négociait avec ses dominions. Et le Canada se perçoit comme ça, et les Québécois ne se perçoivent pas comme ça. Donc, à partir du moment où une communauté s'érige en nation et se dit autonome dans ses champs de juridiction, du moins dans ses champs de juridiction, eh bien, ça crée évidemment un problème. Et le Canada est vraiment le pays, le seul à peu près, je pense, qui a le multiculturalisme inscrit dans sa constitution.
De la manière dont on traite ces minorités quand on se sent soi-même une minorité, c'est tout ce qui secoue le Québec, au fond, depuis longtemps.
Oui, d'où tout le débat tout à fait surréaliste qu'on a eu sur le blackface, sur le supposé blackface de Justin Trudeau. On a appelé ça un blackface. Il s'était déguisé en Aladdin. Danny Laferrière, qui est un écrivain québécois que vous connaissez bien, qui est même académicien ici, a tenté de toutes les façons possibles, sur toutes les radios, sur toutes les télés, d'expliquer qu'on ne pouvait pas faire un blackface en se déguisant en Aladdin. Ça n'avait aucun sens. Personne n'a rien compris. Au Canada anglais, personne n'a rien compris. Justin Trudeau est toujours accusé de s'être déguisé en blackface.
Christian Rioux, on a à peine évoqué votre voisin du dessous, donc on a à un moment... mais peut-être que c'est nous qui avons voulu aussi imaginer cette espèce de miroir inversé entre Trudeau et Trump. Est-ce que vous avez le sentiment que sous Trudeau, et justement parce qu'il est le voisin de Trump, le Canada a repris du poil de la bête? Est-ce qu'il existe mieux face à ce voisin-là ou pas du tout, au fond, et que l'alignement sur Washington reste exactement le même?
Oh, l'alignement international reste le même. Ça ne bouge pas et ça ne bougera pas, en tout cas, avant un certain nombre de décennies. Le Canada, évidemment, tente de se démarquer, mais vous savez, le Canada est un pays particulier. Je vous donne une statistique, par exemple. Les chaînes de télévision les plus écoutées au Canada anglais, ce sont les chaînes américaines. Et très largement, 70% des Canadiens anglais écoutent la télé américaine. Donc, comprenez que quand on traverse l'Outaouais, on arrive dans un pays, on est encore au Canada, mais on arrive dans un pays où l'actualité politique est liée directement à Donald Trump, alors que nous, Québécois, écoutons nos petites chaînes, nos petites chaînes francophones. Bon, voilà, tout simplement. Mais donc voilà, que vous voyez qu'il y a deux pays là-dedans, mais vous voyez que la présence américaine, elle est présente, elle est immense dans tous les médias, partout, à la télévision, sans arrêt. Donc, parfois, en étant au Canada, on a l'impression que Donald Trump est président du Canada. C'est un peu le sentiment qu'on a.
Les Américains ont des États, c'est déjà suffisamment compliqué parfois de voir la relation, ce qu'il peut y avoir de commun entre un type qui habite en Californie et un autre qui serait du Nebraska ou d'ailleurs, mais vous qui avez des provinces qui sont immenses, je me suis toujours demandé, moi, qu'est-ce qu'il y a en commun entre un type de Vancouver et un autre à Montréal ou à Toronto?
On le cherche un peu. Parfois, il nous arrive de le trouver. Un système de santé, en général, c'est ce qu'on cite comme premier exemple. L'idée du multiculturalisme qui unit, en tout cas, le Canada anglais, mais qui n'est pas partagé, en tout cas, par les Québécois. Il y a un certain nombre, puis peut-être un certain mode de vie nordique, un peu plus calme, un peu plus détaché des grands enjeux internationaux.
Ben, en tout cas, vous serez dans vos grands enjeux. Nationaux, sera lundi. Vous votez le lundi, vous?
C'est toujours le lundi, chez nous, c'est toujours le lundi. Les gens, d'ailleurs, sont dégagés de leur travail pendant quelques heures pour pouvoir aller voter. Ceci dit, c'est de moins en moins le lundi, parce que vous savez que à peu près le quart des électeurs a déjà voté. Alors, il pourrait se produire un cataclysme un assassinat, n'importe quoi, dans la semaine qui vient, que leur vote ne pourrait pas changer.
Mais vous croyez pas si bien dire, puisqu'on a vu Justin Trudeau avec un gilet pare-balles en meeting, on n'a jamais vraiment su pourquoi, d'ailleurs, il avait ce gilet pare-balles.
Bon, les mauvais angles ont dit qu'il aimait se déguiser, mais bon, c'est autre chose. Non, il y avait une question de sécurité. Il n'a pas voulu annuler je pense qu'il y avait quoi? Il y avait 2000 personnes qui étaient là, donc il n'a pas voulu annuler l'assemblée, la réunion qui était là.
Allez, en tout cas, le vote, c'est lundi. Christian Rioux, du journal Le Devoir. Merci beaucoup.
On a été ravis
de discuter avec vous. À très bientôt. Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le 18-20, la suite, c'est Le Bruit du Monde et Frédéric Mettezo qui nous emmène dans ces villes arabes israéliennes qui réclament plus de sécurité. Amélie Perrier, vous nous emmenez au Nigeria notamment.
Une maison de l'horreur, une école coranique où 300 petits garçons ont été retrouvés, torturés, abusés. Ouais, c'est pas très bien.
Allez, à tout à l'heure, le cinéma en VO. Bonsoir Eva Bétan.
Moi, je vous amène en Amérique dans le passé un jour, rassure, et on va parler de censure.
Ouais, et on va parler de films pré-code. Ouais. Et c'est passionnant. Je voudrais que vous restiez pour écouter Eva, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Faure.
Bonsoir.
Pourquoi la France revient-elle sur sa parole alors quand on parle d'élargissement de l'Europe aux Balkans?
Paris, pas d'accord avec l'élargissement européen aux Balkans, mais Paris est un peu tout seul.
Allez, à tout à l'heure tout le monde. Anderson Park sur France Inter. Ah voilà, il y a Amélie qui fait cœur avec ses doigts, elle adore, on sait. What can we do?
Girl up and gone, she'll be back in the morning. Go on, mama, take your drama. Seems like I can't live without her. I'm thinking wrong, cause my heart is broke, cause my love went wrong. Yeah, another bag and she left me in the mold while the bubble over stove. As I was dreaming of a bag, and I woke, it was starting to snow. Oh, yes. And in the bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be. To make it feel just like it used to feel.
my cup was empty, you could feel it.
Yeah, you can erase all that.
Hell no, we already paid for the studio session. Come on. Sound good, bro. Where you going?
Le bruit du monde est en Israël ce soir où, depuis deux semaines, les citoyens arabes du pays se mobilisent pacifiquement et par milliers contre l'insécurité. Les chiffres sont tenaces, les agressions, les homicides sont beaucoup plus répandus dans les villes à majorité arabe que dans les villes à majorité juive. Les arabes israéliens ne représentent que 20% de la population, mais plus de la moitié des meurtres sont commis au sein de cette communauté-là. Les manifestants dénoncent donc la passivité de la police, ils se sentent abandonnés par le gouvernement. La presse israélienne s'est emparée de ce sujet, devenu très politique, puisque après les dernières élections législatives, la liste arabe est devenue la troisième force du pays. Frédéric Mettezo vous emmène à Oum el-Fahim, c'est au nord d'Israël, ville arabe de 57 000 habitants, gangrénée par la violence.
Israël n'avait jamais vu ça, des milliers d'Arabes qui manifestent pour une police plus efficace. À Oum el-Fahim, la situation est très difficile, chômage, manque de crèches, manque de parcs et d'équipements sportifs, pas de zone industrielle et surtout 7 crimes commis l'an passé. La ville représente 0,7% de la population d'Israël, mais 7% de ses homicides. Ahmed, un habitant.
La nuit, ils apparaissent comme des chauves-souris, vous voyez ? Ils ne se montrent que la nuit.
Ils, ce sont des trafiquants de drogue ou des hommes de main qui viennent exécuter un contrat pour une dette non remboursée, voire un simple accident de voiture. La violence a explosé à partir de 2010, après que les groupes mafieux ont été chassés de Netanya, la grande station balnéaire juive à une heure de route. Ahmed.
Pour le gouvernement israélien, si les crimes restent à l'intérieur des villes arabes, si les Arabes se tuent les uns les autres, ce n'est pas un problème. Mais du moment où la criminalité se déplace dans une localité juive, alors les Israéliens vont réagir.
Les manifestants sont persuadés que la police ne fait pas son travail de prévention, de répression et d'élucidation. Selon un rapport parlementaire à Oum el-Fahim, depuis 3 ans, 500 enquêtes ont été ouvertes pour utilisation d'armes à feu, mais il n'y a eu que 6 mises en examen. Et ce n'est pas une question de moyens, selon le maire Samir Mahamid.
Il y a 120 policiers et seulement 3 véhicules pour aller sur le terrain quand un crime est commis.
C'est une question de volonté politique, poursuit le député Youssef Jebarin.
Netanyahou est au pouvoir depuis plus d'une décennie. Et c'est pendant ces années qu'on a vu les choses se détériorer. Ils ne sont pas capables d'empêcher les crimes, mais le lendemain, ils arrêtent les voitures pour mettre des PV. La police parle de centaines de milliers d'armes illégales en circulation. Dans le meilleur des cas, ils n'agissent pas, ils ne font pas leur travail. Dans le pire des cas, ça les arrange que nous soyons occupés par nos conflits internes.
You're not doing your job. In the worst case, you feel comfortable with the fact that we are busy.
Et que nous n'ayons ni le temps ni l'énergie pour nous concentrer sur les discriminations.
So we don't have time and energy to focus on discrimination.
La défiance est totale, beaucoup d'Arabes ont des propos complotistes, mais sans jamais une preuve, évidemment, les armes viendraient des stocks de l'armée, la police soutiendrait les mafieux en douce. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, dénonce, je cite, « la violence culturelle des Arabes qui préfèrent les armes à la justice ». Mais Mohamed ne veut pas de la loi du talion, son fils Ibrahim, 24 ans, est mort d'une balle perdue le mois dernier.
Je bénirai Dieu si ces meurtriers sont arrêtés. C'est tout. Je ne veux pas de vengeance. Je veux les voir au tribunal.
La police encourage les jeunes arabes à s'engager pour changer l'institution de l'intérieur, mais pour l'avocat Ahmed Al-Jaber, c'est une fausse bonne idée. Dans son cabinet, au porte-manteau, sa robe noire. Au mur, ses diplômes de droit en hébreu. Et sur son bureau, un drapeau palestinien et une photo de Yasser Arafat. Il explique qu'il ne faut pas communautariser la police.
Nous ne pouvons pas appeler nos fils et nos jeunes à aller dans la police. Nous ne pouvons pas et nous ne le voulons pas. Je vais dans n'importe quel commissariat. Je ne regarde pas si la personne est arabe ou juive. Je m'adresse à un policier.
Le ministère de l'Intérieur annonce 620 officiers de police supplémentaires dans les villes concernées et des caméras de surveillance. L'opposition à Benjamin Netanyahou a convoqué dans les prochains jours une séance spéciale au Parlement pour évoquer cette situation.
Et vous voyez, Frédéric, au moment où on se parle à Oum El-Fahim, dans le nord d'Israël, donc un homme de 35 ans, encore un, est mort par balle. Et c'était donc hier soir pour résonner avec votre sujet. Merci beaucoup. Le bruit du monde sous les radars, c'est Amélie Perrier, c'est la suite. Et Amélie, c'est la deuxième, en trois semaines, deuxième maison de l'horreur découverte au Nigeria.
Oui, c'est une école coranique où l'on envoie les enfants recevoir une éducation religieuse dans l'état de Katsina, dans le nord du pays. La police locale vient de découvrir plus de 300 garçons enchaînés, torturés, victimes d'abus sexuels. En fait, dimanche, plusieurs se sont révoltés, quelques élèves ont réussi à s'échapper et ont pu dénoncer ces pratiques inhumaines. Écoutez le témoignage de ce jeune garçon filmé par l'AFP.
If you do not finish it, they are going to beat you thoroughly. If you vomit, you eat the food together.
Si tu ne finis pas ta nourriture, dit-il, ils vont te battre. Si tu vomis, tu vas devoir manger ta nourriture et ton vomi. Quand tu veux aller aux toilettes ou à la salle de bain, tu y vas nu avec les pieds nus. Et quand tu veux aller au lit, quand tu veux aller dormir, tu dois t'allonger sur le dos comme un cadavre. 40 personnes dans la même pièce. Voilà l'école de Dora, créée il y a 40 ans par un religieux musulman qui a transmis l'établissement à son fils. On y apprend le Coran, mais l'on traite aussi des jeunes accros à la drogue, à la manière forte, on le voit. Le propriétaire et les professeurs ont réussi à s'échapper pendant le raid qui a libéré les pensionnaires. Le chef de la police a promis, je le cite, qu'ils auraient à affronter la pleine colère de la loi. Ce n'est donc pas une exception, puisque au début du mois, on retrouvait déjà plusieurs centaines d'élèves maltraités dans une autre institution islamique dans l'État voisin. Les écoles islamiques privées sont très répandues dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane. La pauvreté y est très élevée et les services publics trop rares. On envoie dans ces centres de redressement tous les enfants avec des problèmes qui sont davantage les problèmes d'une région plus que ceux d'une génération.
Les Philippines ont lancé une campagne de vaccination géante contre la polio.
Depuis le début de la semaine, le gouvernement appelle tous les parents à venir faire vacciner leurs jeunes enfants contre la polio. La maladie est réapparue en septembre pour la première fois depuis 18 ans. Les services de santé veulent protéger ainsi des millions de bébés et d'enfants en bas âge. Les enfants en ont besoin, nous dit cette maman avec son nourrisson dans les bras. Quoi, vous préférez attendre qu'ils attrapent la polio pour agir, alors que le gouvernement offre gratuitement le vaccin ? Car les autorités font tout leur possible pour attirer les parents, avec autour des centres de vaccination, des vendeurs de glace, de la musique. Le vaccin, n'est plus une habitude à Manille. Le nombre d'enfants vaccinés est passé de 77% à 24% ces trois dernières années. La confiance dans ces produits pharmaceutiques est tombée au plus bas après l'affaire du dengue vaccinia, le premier vaccin contre la dengue. Fabriqué par le français Sanofi, il avait été expérimenté sur des centaines de milliers d'écoliers aux Philippines en 2016, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il pouvait aggraver les symptômes chez les personnes non infectées avant par le virus. Alors dans ce pays où l'on a abandonné les vaccins, quand deux cas de polio sont détectés le mois dernier, l'alerte est maximale. La polio, je vous le rappelle, est contagieuse. Elle provoque une paralysie et parfois la mort. Au début de l'année, des épidémies de rougeole et de dengue ont fait plus d'un millier de décès aux Philippines. Les autorités espèrent donc aujourd'hui éviter le pire avec la polio.
Allez, on termine avec un enterrement, figurez-vous.
Mais je vous promets, Fabienne, que l'on peut en faire un événement gay, voire très drôle, l'enterrement de Shai Bradley que nous raconte la BBC. En fait, c'est sa petite fille qui a diffusé la scène sur les réseaux sociaux car l'un des proches a filmé la scène au cimetière. Oui, certains font des stories même au cimetière. Mm-hmm. Mais là, on comprend un peu plus pourquoi.
Hello.
Et oui, une voix sort du cercueil.
Moi, ça me ferait peur.
Déjà au fond de la tombe.
Moi, ça me terroriserait.
C'est la voix de Shaik qui dit « Hey, salut, laissez-moi sortir, il fait sacrément sombre ici. » Et vous entendez les proches en deuil, ils étaient en pleurs hein, quelques secondes avant. Là, ils se marrent. Et Shai qui interpelle le prêtre et qui finit par chanter « Hello again » de Neil Diamond. Shai voulait être enterré dans la joie. Alors juste avant sa mort, il avait prévu le coup. Il a enregistré sa voix avec la complicité de son fils. On lui décerne donc le César de l'enterrement le plus diabolique de l'année avec sa blague d'outre-tombe.
Voilà, j'ai envie de dire mort de rire. Mais
mort de rire.
MDR, Amélie Perrier, merci beaucoup. À demain.
À
voici
demain.
Karen Dalton, « Little Bit of Rain » sur France Inter.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Little Bit of Rain. J'ai envie de dire que c'est a little bit bizarre aussi, mais enfin, pourquoi pas, sur France Inter. Le cinéma en VO et Eva Bétan, c'est tout de suite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Bah, puisqu'on est vintage, Eva Béton, on dit qu'on est vintage jusqu'au bout.
Oui.
Alors ce soir, vous êtes un peu boulimique, vous n'avez pas un film à nous proposer, mais plusieurs
tant
qu'on peut voir en ce moment au Festival Lumière qui est à Lyon, le festival qui se termine dimanche, ça vous laisse du temps, et qui met en valeur le patrimoine cinématographique, il y a des restaurations, il y a des films qu'on peut redécouvrir, etc. Et notamment un cycle consacré à une page extrêmement mal connue du cinéma américain. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler avant que vous nous en parliez. Ça s'appelle les films pré-code.
Oui.
Une histoire de censure, de mœurs, de politique. C'est quoi le pré-code alors ?
Alors, peut-être que vous avez remarqué que dans les films américains des années 40, 50, 60, les couples, même mariés, ne dorment pas dans le même lit. Il y a des lits jumeaux. C'est à cause d'un code de censure, ou plutôt d'autocensure, on va y revenir, rédigé par un sénateur, William Hines, d'où le nom de Code Hines. Il faut remonter aux années fin. Hollywood brille aussi par ses excès, drogue, scandale, etc. Hollywood, capitale du vice. Pour calmer les critiques qui s'élèvent et qui sont nombreuses, c'est la profession
elle-même qui commence à réfléchir avec ce fameux sénateur et à travailler à un code de bonne mœurs pour éviter une censure qui viendrait de l'État et qui leur serait imposée. Le code ne va être appliqué qu'en 1934. Les studios vont obtenir un sursis pas long, 4 ans, entre 1930 et 1934. Alors pourquoi et pour en faire quoi? Eh bien, celui qui va vous l'expliquer, c'est Bertrand Tavernier. Il est le cofondateur avec Thierry Frémaux du Festival Lumière, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, surtout une encyclopédie du cinéma.
Les studios obtiennent, parce qu'il y a le crack de 29, il y a la dépression, ils obtiennent qu'ils ne soient pas appliqués en disant « notre chiffre d'affaires est catastrophique, s'il vous plaît, ne nous mettez pas des freins supplémentaires ». Et donc pendant quelques années vont naître un nombre considérable de films libres. C'est une liberté de mœurs, c'est aussi, on viole beaucoup de tabous, l'alcoolisme, c'est l'époque de la prohibition, et dans nombre de films, les gens ingurgitent une quantité d'alcool absolument phénoménale. Mais c'est aussi une liberté politique. On parle de la corruption politique, on parle de choses quand même rares. Au début de Babyface, on voit un père qui essaye de prostituer sa fille, en l'occurrence Barbara Sandwick. Et celle-ci va commettre un parricide et va n'en avoir aucun remords. Ça, c'est simplement les 10 premières minutes du film, qui est un des films, Babyface, les plus féministes qu'on ait fait, qui a été redécouvert par les mouvements féministes. Et qui a un statut culte.
Alors, ce qu'on peut voir à Lyon, c'est 9 films pré-code donc, de la Warner. Bien sûr, c'est mieux de les voir sur grand écran. Mais Babyface, ce que vous a dit Bertrand Tavernier, vous fait peut-être envie. Je vois que le film existe aussi en DVD. C'est Babyface d'Alfred E. Green.
Et bien voilà, comme ça on le sait. Et alors, la parenthèse, c'est ce que nous expliquait Tavernier, est de très courte durée, juste après, boum, censure.
Et elle est stricte, elle concerne d'abord les mœurs.
Ça touchait à tout. Non seulement on ne devait pas dormir dans le même lit, mais il fallait qu'il y ait une distance qui était mesurée par quelqu'un, avec un maître. Les bras étendus ne devaient pas pouvoir se toucher. Un baiser échangé entre un homme et une femme, alors qu'ils sont sur un divan, il fallait absolument que l'homme ait un ou les deux pieds sur le sol. C'était tout cela. C'était sur des habits. On ne devait jamais voir le nombril. Alors qu'il y a des tenues extravagantes. La censure, elle coupe des numéros trop osés dans des comédies musicales. Le cinéma américain, à partir de 1934, il a été, j'aime bien le mot anglais, « sanitized », il a été désinfecté.
Alors, les mœurs, mais pas seulement, la violence, la drogue, le blasphème, etc. Mais quand ça commence, quand c'est appliqué, nous sommes en 1934 et les années suivantes, montée vers la guerre, puis la guerre, Bertrand Tavernier évoque un épisode mais vraiment mal connu.
À la tête de la censure, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Brin, qui va prendre le contrôle de la censure, et qui est un admirateur de Mussolini, qui a plus ou moins aussi quelques faiblesses pour Hitler, qui est un antisémite reconnu, et qui fait soumettre tous les scénarios qui concernent l'Europe au consul nazi de Los Angeles, qui demande des édulcorations, et c'est pour ça que la plupart des films voient leur contenu disparaître. Toute allusion à l'Allemagne, aux persécutions antisémites, disparaît des films à la demande du consul nazi.
Alors le code est levé, je vous rassure, à la fin des années 60, et il est très bon, comme Hitchcock, il savait très bien contourner le code.
Ouais, formidable histoire en tout cas, Eva Bétan, merci beaucoup. Formidable Bertrand Tavernier aussi, évidemment, la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, Jean-Marc, le Brexit monopolise l'attention évidemment en ce moment, mais enfin c'est pas le seul sujet au menu de ce sommet européen de demain et d'après-demain. Il y a aussi la question de l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Europe pour deux pays des Balkans, l'Albanie, la Macédoine du Nord. La France refuse, et ce refus vous semble très discutable, c'est votre monde à l'envers.
Ça a chauffé hier à Luxembourg, selon plusieurs témoignages, ça a chauffé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ou européennes, et ça a chauffé en grande partie à cause de Paris. La France en effet bloque sur ce sujet de l'élargissement. Elle bloque sur le cas de l'Albanie, mais là, elle n'est pas la seule. Le Danemark, les Pays-Bas ont la même position, l'Espagne hésite. La France bloque aussi sur le cas donc de la petite Macédoine du Nord, 2 millions d'habitants, juste au-dessus de la Grèce. Et là, selon plusieurs témoignages, Paris est tout seul. La France refuse même l'idée de séparer les dossiers des deux pays, alors que la Macédoine présente plus de garanties. Et enfin, encore plus fort, Paris cherche à éviter que le sujet soit, ne serait-ce qu'abordé, lors du sommet européen de demain. Alors devant un tir de barrage de cette nature, on se dit que les arguments de la France doivent être sérieux, examinons-les. Il y en a en gros 3. 1. Les deux pays concernés n'ont pas rempli tous les critères préalables aux négociations, notamment en termes d'état de droit. 2. Si on engage ne serait-ce qu'un processus de négociation, il sera inarrêtable. Et 3. L'Europe empêtrée dans le populisme n'est pas prête pour un tel élargissement, c'est trop risqué politiquement. Conclusion de Paris, il faut changer toutes les règles du processus. Dit comme ça, ça se tient, le raisonnement se défend.
Sauf que vous, vous n'êtes pas convaincu.
Alors, ça pose deux problèmes, en fait. Deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le non-respect de la parole donnée. Le blocage français peut conduire l'Europe à violer sa promesse. Dire, il faut modifier le processus. C'est un peu comme de changer les règles en cours de partie. On peut prendre une comparaison sportive. Vous savez, le club de football qui remporte le championnat de Ligue 2, il monte automatiquement en Ligue 1 la saison suivante. Sauf que là, ben non, le champion de Ligue 2, il apprend au dernier moment qu'il doit rester en Ligue 2. Pour comprendre, il faut rembobiner le film. Ça fait un an et demi que l'Union européenne promène le chien vis-à-vis des candidats des Balkans. 6 pays au total, en commençant donc par l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et depuis un an et demi, de sommet en sommet, il y a toujours une bonne raison pour repousser l'ouverture des négociations. Le souci, c'est que l'Europe a fixé des critères à ces deux pays sur l'état de droit, la liberté de la presse, la lutte contre la corruption et le crime organisé. Et les deux pays ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens. En particulier la Macédoine du Nord, qui a même résolu le dernier écueil, on le sait, un accord sur son appellation, son nom en tant que pays. Le contentieux avec la Grèce a été levé cet été au prix d'un investissement politique majeur. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'était engagée devant témoin. Si vous résolvez cette histoire de nom, les négociations débuteront avant la fin de l'année. Croix de bois, croix de fer. Nous y sommes. Patatras. Parce que si la France bloque, attention, tout est bloqué. Il faut l'unanimité des membres. Du coup, ça envoie un message à tout le monde et pas seulement auprès des deux pays concernés. Et le message, c'est les promesses européennes ne valent pas tripette.
Voilà, et j'imagine que ça peut provoquer des effets en chaîne.
C'est la deuxième raison qui rend perplexe, en effet, les effets en chaîne d'un tel refus. Pour l'Europe elle-même, d'abord. Hier, après cette fameuse réunion où ça a chauffé, les négociateurs finlandais et autrichiens qui pilotent l'affaire étaient très remontés contre la France. Le commissaire autrichien à l'élargissement, Johannes Hahn, a même eu cette formule « Je m'excuse auprès des peuples de Macédoine et d'Albanie, ce n'est pas un jour glorieux pour l'Europe ». Et puis ça crée un contentieux entre Paris et Berlin, parce que l'Allemagne, à l'inverse, elle est très favorable à ce processus d'élargissement. Un diplomate allemand nous confie récemment « Il faut montrer aux Balkans la sortie du tunnel ». Ça, c'est pour l'Europe. Puis de l'autre côté, il y a les conséquences pour les Balkans. Parce que si l'Europe leur ferme la porte, elle va les jeter dans les bras d'autres partenaires. Des partenaires moins soucieux des libertés, mais dont la parole apparaîtra peut-être plus fiable. La Russie, qui aide déjà diplomatiquement et financièrement la Serbie. La Chine, qui investit dans les infrastructures. Ici, un aéroport en Albanie, des autoroutes en Serbie. Et la Turquie, dont l'influence grandit via la religion en Bosnie, au Kosovo, en Albanie. Il y a quelques mois, le Premier ministre albanais Edi Rama nous disait « L'Europe est injuste avec nous ». Donc oui, prendre le risque de démoraliser les Balkans, vu en plus l'histoire violente de la région au cœur de l'Europe, c'est un pari discutable.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc.